Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
1h30 de débrief, que du bonheur les amis, avec nos experts qui sont là. Et on est très heureux d'accueillir Salim Nassur. Salut Salim.
Bonsoir.
Fondateur de Mars, ancien directeur marketing de Google Cloud Europe. Mars avec...
Deux A, monsieur.
Très important.
Hyper important.
À tes côtés Didier Sens. Salut Didier.
Salut.
Avec un Z. Voilà, ça suffit.
Voilà.
Seul.
Et journaliste, bien sûr, depuis quelques années, on va dire, dans la tech. Autre journaliste qui est depuis quelques années dans la tech, c'est Frédéric Simotel. Salut Fred.
Salut, bonsoir à tous.
T'es pas un perdreau de l'année.
Voilà. Non, quelques années au compteur. Oui.
Voilà, et à tes côtés, c'est Michel Lévy, Provençal. Salut Michel.
Salut François.
Prospectiviste, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. Voilà, nos quatre experts ce soir pour revenir sur toute l'actualité Apple, hein, parce qu'on va évoquer dans un instant avec Aude les résultats financiers, mais Apple préparait un Siri un petit peu plus intelligent. On reviendra aussi sur la keynote de demain, hein, qui se déroulera dans l'après-midi. En tout cas, heure française, que va annoncer Apple, on va y revenir. Et puis tout à l'heure, on parlera aussi du départ de Jack Dorsey de son réseau social Blue Sky. Est-ce que ça sent le sapin, tiens, pour Blue Sky ? Ou est-ce que c'est simplement une étape concernant ce réseau ? On verra ça tout à l'heure. On va parler d'espace, je le disais, de Tesla aussi, d'Elon Musk et de Bill Gates. Voilà, que du beau monde. Oui. Mais pour débuter, on accueille comme prévu Aude Kersulec. Bonsoir Aude.
Bonsoir François. Bonsoir.
Et on commence bien sûr par les chiffres d'Apple qui sont assez mitigés, hein.
Oui, d'un point de vue global, c'est vrai, on peut se dire que le trimestre est mitigé, recul du chiffre d'affaires de 4% par rapport à l'an dernier, 90 milliards d'euros tout de même. Recul du résultat net aussi par rapport à l'an passé, là qui s'élève un petit peu plus de 23 milliards d'euros, moins 2% par rapport à l'an dernier. Alors cette faiblesse s'explique par un recul des ventes de l'iPhone, l'iPhone qui recule notamment largement en Chine, et c'est quand même moins 10% des ventes d'iPhone par rapport à l'an passé. On a aussi un recul des ventes d'iPad ou encore des autres produits, notamment l'Apple Watch ou encore le Vision Pro. Mais le point positif, c'est qu'Apple a réussi à détourner l'attention avec une très belle performance, et c'est même un record pour les services, plus de 23 milliards d'euros dans les services, plus 14%, une performance à deux chiffres. Ça fait déjà plusieurs trimestres que ce sont les services qui poussent la belle performance d'Apple, donc les services, c'est Apple Store, Apple Music, Apple TV. Ça veut dire que la base d'appareils vendus et installés par Apple est très active. La satisfaction et la fidélité des clients, a dit le directeur financier, qui n'a pas manqué de rétribuer, non pas ses clients, mais ses actionnaires, par un gigantesque rachat d'actions, gigantesque, 110 milliards de dollars d'actions rachetées. Compte tenu de notre confiance dans l'avenir d'Apple, là je cite encore le directeur financier, et c'est un coup fort quand même de la part d'Apple, parce qu'on dit généralement qu'en bourse, quand on rachète ses actions, c'est qu'on ne sait pas quoi faire de son argent, qu'on n'investit pas, et là finalement Apple réussit à faire un gros coup.
Merci beaucoup, c'était Aude Kersulec donc pour les commentaires de ces résultats financiers d'Apple qui sont, on va dire en demi-teinte, beaucoup de rouge, vous l'avez vu dans l'infographie si vous êtes avec nous à la télé, les iPhones ça va pas, les iPads ça va pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va pas,
le Vision Pro,
qui est dans les services, c'est-à-dire que c'est pas que le Vision Pro, parce que évidemment Apple ne communique pas sur les seules ventes du Vision Pro, c'est tout ce qui touche avec les autres services d'Apple, c'est-à-dire les Apple Watch, etc. Mais alors qu'est-ce que se passe-t-il chez Apple, parce qu'on pourrait se dire c'est un trou d'air, ça arrive, mais là ça fait quand même quelques trimestres que on voit qu'Apple est à une espèce de plafond, voire même parfois des baisses assez importantes, moins 10% pour les iPhones. Michel, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est énorme.
Bah, ils arrivent dans un océan qui est plus que rouge. C'est un océan écarlate avec une concurrence, notamment en Chine, avec la possibilité demain d'avoir des mobiles à un prix drastiquement plus faible que ceux des iPhones. Alors la stratégie qui consistait à en faire un produit de luxe, elle arrive à sa limite. On voit bien qu'ils cherchent de nouveaux canaux de distribution, en l'occurrence de services avec le Vision Pro, mais là, manque de bol, ça marche pas aussi bien que ce qu'ils attendaient. Donc les ventes sont inférieures à ce qu'ils attendaient. Ils ont prévu d'arrêter d'ailleurs la production de Vision Pro pour cette année et sont en train de réfléchir à avoir un casque beaucoup moins cher hardware pour 2025 voire 2026. Donc oui, le hardware chez Apple, c'est difficile. En revanche, les services, eh bien, ils cartonnent parce qu'il y a une base installée qui est très efficace. Et puis, d'une certaine manière, ils n'intègrent pas les services, l'IA. Pas encore, en tout cas. On va voir ce qui va se passer avec l'IA. C'est un point intéressant, ça.
Alors, avant de donner la parole à Salim et à Fred, Didier, tu suis l'actualité Apple depuis de très nombreuses années. C'est une période inédite, hein, pour Apple, qui est, on a l'impression, à manger son pain blanc.
C'est une époque inédite, si tu veux, mais qui était anticipable. Parce que l'idée d'Apple, comme beaucoup d'entreprises de la tech à une certaine époque, est de switcher tout doucement du hardware au software, du matériel au service. Le service, c'est pas seulement ce qu'on connaît, c'est-à-dire la musique en ligne, le site de streaming Apple TV, c'est aussi le pourcentage pris sur les applications qui sont vendues sur l'App Store. Donc ça, c'est un énorme trésor de guerre sur lequel ils sont assis. Et le matériel en question, ils le boostent sans arrêt pour essayer de lui donner une nouvelle croissance, hein, avec les nouvelles puces M3 et bientôt M4, etc. On s'aperçoit de deux choses, c'est que d'une part, effectivement, comme le dit Michel, la stratégie du luxe à tout prix, bah, elle a des limites. Les gens vont pas payer 1 250 € chaque année, surtout pour des innovations qui sont pas majeures.
C'est ça.
Les innovations restent quand même très limitées. On n'a pas encore de killer application de l'iPhone qui permettra d'en changer comme ça. Donc il y a ça, il y a ce problème-là. Il y a le problème effectivement de la concurrence, notamment sur le marché chinois, qui est un énorme marché en devenir pour Apple. Et puis le fait que y a des formules qui marchent pas très bien. Ce qui est intéressant, c'est de voir le recul de l'iPad. Alors c'est vrai que l'iPad n'a pas beaucoup évolué ces derniers temps, mais moi je mets ça en parallèle avec la montée en puissance du Mac. Le Mac non seulement se maintient, mais il fait des bons scores, il est positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement l'idée que l'informatique de demain que nous avait vanté Tim Cook en disant que l'iPad c'était le PC qui remplace le PC, une espèce de révolution, les gens n'en adhèrent pas forcément. L'iPad, il a un marché qui est un marché de niche, hein, qui est celui des créatifs, des exécutifs qui ont besoin d'hypermobilité, mais celui du cœur de l'informatique, des développeurs, etc., ça reste le Mac. Et le Mac, il continue à avoir un beau chemin qui se dessine devant lui.
D'ailleurs, on reparlera peut-être de l'iPad dans quelques minutes, puisque oui. Normalement, devrait être annoncé demain de nouveaux iPads, mais on y reviendra. Salim, que dire sur Apple? D'accord avec la réflexion de Michel et de Didier?
Complètement d'accord avec la réflexion de Michel et de Didier. Je vais même rebondir sur les deux d'ailleurs. Tu parlais d'iPad, tu parlais d'océan rouge voire écarlate. Demain, il y a les nouveaux iPads qui vont être annoncés. On attend tout ce qui est une nouvelle couleur, la couleur écarlate. J'ironise, mais en gros, ce qui arrive à Apple aujourd'hui, c'est ce qui arrive à toutes les entreprises et plus particulièrement à des entreprises tech. C'est qu'à un moment, si tu n'innoves plus, sauf en changeant les couleurs chaque année, à un moment, le consommateur va ailleurs. Et c'est ce qui est arrivé c'est ce qui est en train d'arriver à Apple. Donc, effectivement, c'est essayer d'aller chercher des nouveaux gisements de croissance avec le casque. Tu sais, comme j'étais plutôt, mitigé sur cet usage. Donc, ils l'ont pas. Il n'y a pas la voiture, il n'y a pas le casque, il reste les iPhones. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'innovation. Donc, tout le monde attend ce qu'a fait, par exemple, un Samsung avec l'arrivée de l'IA dans le Samsung. Donc, tout le monde attend que Apple mette de l'IA dans l'usage de ses iPhones. Et là, peut-être qu'à un moment, ça repartira sur cette croissance. Mm-hmm. Sinon, aujourd'hui, c'est arrivé à Nokia, c'est arrivé à d'autres. Quand tu n'innoves pas, forcément, tu perds il y a ta base d'utilisateurs qui s'érode. Après, faut raison garder, hein, comme on dirait.
Oui,
une entreprise qui fait 23 milliards de bénéfices sur un trimestre, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient mal aller comme ça. Hein. Donc, ils ont encore de quoi voir venir. Mais là, je pense que 2024, ça va vraiment être une année hyper cruciale pour Apple. S'ils ne sortent pas quelque chose de disruptif, ils vont passer dans la case de « on est en avance » à « on devient des ringards ». Et c'est jamais très bon d'être dans cette case-là.
Est-ce que, Fred, on assiste à, en fait, une lente, baisse de l'attention chez Apple, en tout cas de la part des clients, parce que justement, comme le disait Salim, il y a moins d'innovation. On suit effectivement chaque année les nouveaux iPhones, et c'est vrai que parfois on se dit, mais c'est quoi la différence entre le 13 et le 14 ou le 15? C'est compliqué, quoi.
Je pense qu'on arrive aussi, moi je regarde souvent le côté du capital humain. Il y en aurait aussi une fin de génération chez Apple, hein. Bon, Johnny Ive est parti il y a un moment, mais même dans les équipes, les gens peut-être ont un peu moins envie de travailler chez un peu comme en France, hein. Les gens veulent moins travailler pour des grandes entreprises, préfèrent lancer leur start-up, surtout quand ils voient comment tout d'un coup on licencie 20 000 personnes comme ça, ils se disent bon tiens, et les jeunes pleins d'espoir, ils veulent peut-être plus aller voir des start-up ou voir des entreprises. On parle beaucoup d'IA, ben, on va être plus attiré vers un OpenAI, vers des entreprises qui investissent, que Apple pour l'instant qui nous vend de l'iPhone. On sait pas, on connaît pas bien la stratégie IA. On va voir si l'iOS 18 annoncé le 10 juin, est-ce que ce sera, on va franchir une étape dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là, moins d'innovation, c'est des ingénieurs qui y croient peut-être un peu moins, une génération qui doit se renouveler, et la nouvelle génération, pour l'instant, elle n'est peut-être pas complètement chez Apple. Alors, il y a évidemment des gens hyper brillants, etc. Et Apple n'est pas fou, ils cherchent aussi les cerveaux. Mais les cerveaux, aujourd'hui, ils vont moins comme chez nous. Hein. À un moment, les gens voulaient aller chez Dassault Systèmes, chez Airbus, chez Renault, tout ça. Puis à un moment, il y a pas mal de cerveaux qui se sont dit, tiens, je vais aller dans des boîtes plus petites, voire créer mon entreprise. Et c'est la même chose là-bas. Donc, je pense qu'il y a aussi ce phénomène-là. Après, derrière, il y a...
Donc ça expliquerait, d'après toi, le fait qu'il n'y ait plus d'innovation, c'est ça ?
C'est un super point, je veux bien rebondir après là-dessus.
En partie, je pense qu'il y a, une génération de Johnny Ive qui n'y a plus. Je veux dire, en partie, ça peut être ça. Il y a la partie concurrence, évidemment. Bon, la concurrence est plus forte. Mais voilà. Et puis, le côté rachat d'actions, là, même si ce n'est pas la première fois qu'ils le font, quand même 110 milliards, bon, d'accord, ça redonne de la valeur à l'action. Ce que l'on dit souvent quand il y a un rachat d'actions, c'est aussi qu'on n'a pas dans le narratif, on ne sait pas où investir, donc du coup, allez, on va redonner de l'argent aux actionnaires, au moins eux seront contents. De toute façon, on a encore plein d'argent en poche, l'action va remonter, ça va nous maintenir à un bon niveau. Mais tu vois, le capital humain, moi je pense qu'il y a ce côté-là qui est important. Donc on va voir qui sont les... regarde toutes les dernières conférences, ce sera intéressant, tiens, je regarderai ça pour demain. Qui sont les nouvelles têtes qui sont sorties dans la santé? Oui, il y a quelqu'un qui est sorti dans le domaine de la santé, mais qui sont les nouvelles têtes à sortir dans les keynotes? C'est un peu les mêmes depuis 10-12 ans. Hein.
Mais oui, parce que c'est une boîte aussi qui vieillit, Apple.
Enfin, exactement.
Bon, Tim Cook en est le on va dire le patriarche, digne représentant. D'ailleurs, il ne se cache pas qu'il est à bout de course aussi, qu'il est en train de préparer sa succession. C'est vrai, Didier, est-ce que finalement, ce n'est pas une boîte qui a... De par son confort et de son succès colossal, n'a pas prévu peut-être le futur d'Apple, finalement. On a eu un Steve Jobs qui est parti, ça a été un électrochoc incroyable dans cette boîte. Finalement, il n'y a pas eu un changement radical dans le management depuis toutes ces années, depuis que Steve Jobs est parti.
Il y a eu des petits ajustements.
Des petits ajustements, mais si tu veux, les têtes pensantes, c'est toujours les mêmes.
Ouais, alors, moi, je ne partage pas entièrement cet avis, parce que pour avoir fait l'aller-retour souvent à Cupertino, justement, on avait parfois des têtes assez différentes, et c'était assez intéressant de voir qu'il y avait beaucoup d'équipes de jeunes qui étaient derrière les speakers officiels.
Mais non, je pense qu'Apple fait toujours rêver, finalement.
Mais
je pense.
Non.
Mais
non.
Je
préfère aller chez Nvidia aujourd'hui. Hein.
Mais bien sûr.
Mais cela étant, j'ai du mal à imaginer. Enfin, c'est une boîte qui est aussi capable de rebondir, tu vois. Ils sont passés quand même du modèle de tout ordinateur à électronique grand public, d'électronique grand public à phénomène de mode avec l'iPod,
la musique,
etc. Encore plus accentué avec la Watch, avec les partenariats avec Hermès et compagnie. Enfin, donc c'est une boîte qui est capable d'avancer comme ça. Par touche dans différents domaines. Là où elle se plante, elle s'arrête. C'est le cas de la voiture, par exemple. Là, elle a pris son temps pour étudier les opportunités de l'IA. À mon avis, ça va déchirer, parce que si Apple commence à se lancer sur le sujet, ça veut dire qu'elle va devenir un standard.
Mais ils ont intérêt, en tout cas.
C'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire, quand elle arrive en retard sur une technologie, on a l'impression que c'est eux qui démocratisent cette technologie. On l'a vu sur le Wi-Fi, on l'a vu... Enfin, qui s'appelait à l'époque Airport, qui était c'était les premiers à montrer la démonstration. Voilà. Donc ce genre de on peut multiplier les exemples comme ça. Donc c'est une entreprise qui est capable de rebondir. Là pour l'instant.
Mais prends pas. Hein, je dis pas qu'ils sont morts. Je dis qu'ils ont un trou d'air. Et moi, ouais, parmi les raisons.
91 millions de.
Oui, mais non, mais un trou d'air par rapport à ce qu'on attend d'Apple, évidemment. Ça quelqu'un fait un qui bout sort de temps. 23...
Non, mais il a raison. Quand tu regardes à un moment, je sais pas si t'as regardé, mais tous les job desks, enfin toutes les job descriptions qui étaient ouvertes chez Apple pour trouver des gens qui faisaient de l'IA. C'est-à-dire qu'ils n'en avaient pas, si tu veux. Donc il y a vraiment ce truc de capital humain où tu as complètement raison, où tu vois qu'aujourd'hui, les grosses entreprises tech, et globalement les entreprises tech, sont en train d'être asphyxiées par deux phénomènes. Le premier, c'est celui de la bourse, quand même. On en parle pas assez, qui contraint tout le monde à pas trop prendre de risques. C'est ce qui s'est passé chez Google à un moment, quand on a changé de CFO, c'était ceinture bretelle, fallait pas trop prendre de risques. Donc si tu prends pas de risques, il n'y a pas d'innovation. Et si tu prends des risques, tu peux finalement perdre ton job. Donc, vaut mieux pas que tu prennes de risques. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Et bon, je crois que j'en ai parlé une fois, mais à une époque, on appelait Google le ministère du web, en fait. Parce que t'étais là, t'étais installé, tu voulais pas faire trop de bruit. Et ceux, effectivement, qui voulaient faire d'autres choses, et c'est ce que tu décris très bien, Frédéric, allaient faire ça dans d'autres boîtes qui avaient enfin envie d'innover. Donc, tu avais des gens qui étaient un peu planqués, qui sont là, tranquilles. Et puis, si tu as envie de faire bouger un peu comme ça se passe dans la Silicon Valley, parce qu'il faut bien voir que dans la Silicon Valley, si tu sors d'Apple, dans la rue d'à côté, tu as un nouveau job, etc. Et OpenAI, c'est exactement ça. Aujourd'hui, tout le monde va voir OpenAI, tout le monde va voir les boîtes qui sont un peu plus sexy. Donc, oui, tu as des jeunes, mais ce ne sont pas forcément des jeunes qui veulent changer un peu les choses comme il y avait avant. Ce sont des jeunes qui viennent pour se faire une carte de visite, pour dire je suis, et puis après mettre sur LinkedIn, je suis ex-Googler, ex-Apple, ex-Meta, etc. Et puis ensuite, soit vont aller dans des trucs à la OpenAI, soit vont aller créer leur propre entreprise.
Tu vas être racheté par Apple après.
Oui, et ça, mais complètement. Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui dans les boîtes tech. Moi, j'en ai parlé beaucoup à l'époque où j'étais chez Google avec des gens un peu plus haut, si tu veux. C'est-à-dire, comment tu recrées cette attractivité? Et tu ne laisses pas, quelque part, la bourse piloter cette innovation. Parce que si tu fais ça, l'innovation meurt et finalement, la bourse aussi. Donc,
Michel, est-ce que tu es toujours une boîte désirable, en fait, pour les ingénieurs?
Je pense que c'est un peu tôt encore pour juger. On va attendre, un peu de recul par rapport au Vision Pro, parce que quand même, ils ont pris un risque avec le Vision Pro, important. Et ils y croient encore. Ils ont fait des annonces quant à l'utilisation du Vision Pro par les entreprises, pour essayer de contrer les mauvais chiffres de vente. Et puis, sur l'IA, et on va peut-être parler de l'IA chez Apple, mais c'est vrai qu'ils sont très en retard. Moi, je l'ai dit la dernière fois, je ne pense pas que l'IA sur iOS 18 arrivera cet été. Je pense que ce sera plutôt pour cet automne, parce qu'ils sont bien en retard.
Et ils vont l'annoncer cet été quand même.
Ils vont peut-être l'annoncer, mais rien n'apparaîtra dans la version d'iOS qu'on aura cet été. Il n'y aura pas de chatbot, il n'y aura pas de Siri, nouvelle version, il y aura peut-être un gimmick ou deux. Mais ce trou d'air, je suis assez d'accord, risque de durer encore jusqu'à 2025. La vraie question, c'est est-ce que Apple sera encore dans la même situation en 2025? Si c'est le cas, on pourrait presque dire qu'ils commencent à rentrer dans une phase qui peut être dangereuse pour eux. Parce qu'ils seront moins sexy. Je vous rappelle que le dernier Samsung, c'est pas pour faire de la pub, mais le Galaxy AI S24 de Samsung bat de très très loin les capacités de l'iPhone. Donc ils ont un vrai problème par rapport à ça. Et c'est pas que du hardware, c'est du software. Donc on rentre dans le domaine aussi du soft, des services, etc. Donc 2025 va être une année décisive, oui, je pense, pour Apple.
Mais d'autant qu'on annonce un iPhone 16, pas très innovant en termes de hardware, finalement.
Alors, on n'annonce rien.
Mais tu sais comme moi qu'on a toujours plein d'infos qui fuitent. Ouais. Visiblement, l'iPhone 16 ressemblerait beaucoup à l'iPhone 15. Et ce qui pourrait justement le différencier, c'est l'iOS 18 qui ajouterait une couche d'intelligence artificielle.
Voire une nouvelle couleur.
Ouh. Et ça, écarlate, même, je dirais.
Mais ce qui serait intéressant, c'est de s'interroger un peu sur quel doit être le profil, sans parler de nom, mais quel doit être le profil du successeur du
successeur
Tim
d'Apple.
Est-ce que ça doit être quelqu'un, un designer innovant?
Ça doit être un sacré casse-tête quand même. Ouais. Est-ce qu'on prend un historique d'Apple qui va tenir les rênes parce qu'il connaît tout par cœur, ou est-ce que tu prends quelqu'un, un junior,
pas parce que c'était pas quelqu'un junior, de charismatique, cas, parce que c'était un mec efficace, un opérationnel.
Et justement, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on... Ouais. quel est le profil, ou ça peut être 2-3 personnes, quoi, un peu un triumvirat avec le, puisque c'était un peu ça, hein, Johnny Ive, oui. Steve Jobs, Tim Cook, c'est un peu ce combo qui fonctionnait bien, un pour la partie logistique, l'autre pour la partie design, l'autre pour les parties idées,
stratégie.
Mais en tout cas, derrière, il y avait les technos derrière.
Bien vu d'avoir ramené ce point-là, parce qu'en fait, j'y réfléchissais, je me disais, c'est ce qui est arrivé aussi à Nintendo, tu vois, en fait, le board commençait à être vraiment un peu vieillissant et donc ils n'arrivaient pas à se renouveler. C'est ce qui est arrivé aussi à Intel, en fait. Hein, Intel, ils sont quand même passés
Sony,
à côté.
Il y en a plein.
C'est arrivé à Sony. Donc c'est vrai que là, on arrive à ce moment d'Apple de dire, OK, what's next? Même au niveau des ressources humaines, en fait. Hein, et c'est vrai qu'il n'y a pas tellement
après,
de succession.
L'avantage par rapport à d'autres entreprises, c'est que eux, je pense qu'ils ont la capacité à avoir quelqu'un qui, tu vois, je pense à Nokia, Intel, où les gens étaient un peu concentrés en disant, non, attendez, on est les numéro un, c'est bon, on va se renouveler. Ça va aller mieux et tout ça. Je pense que Apple a peut-être plus la capacité à se remettre en question, à dire attendez les gars, faut peut-être qu'on aille vers la santé, vers tel domaine. Chose qu'à l'époque, les Nokia, Intel se disaient on est archi dominant, personne va venir, on va continuer, on a
peut-être
un petit coup d'air, mais
personne ne pourra nous aider.
On va dérouler. Ouais. Et puis Nokia, on a vu ce qui est arrivé. Intel, on voit.
Tiens, on enchaîne sur le deuxième sujet lié à Apple. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Ça va être quoi le coup de génie de l'intelligence artificielle d'Apple? On le voit sur le Galaxy S24, donc il y a pas mal de fonctionnalités, hein, on en parlait, c'est la traduction simultanée, les résumés des réunions, etc., qui sont possibles avec la fonction dictaphone, on peut l'imaginer, mais visiblement tout serait concentré sur Siri. Ça, c'est des informations des rumeurs encore une fois, hein, mais Siri passerait à une phase 2, en quelque sorte, Didier, d'après ce que
vous dites. On ne peut pas imaginer qu'ils vont adopter l'intelligence artificielle sans faire évoluer Siri, puisque Siri était leur assistant personnel.
Et puis Siri incarne Apple, c'est ça le problème. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle à Siri, on parle à Apple.
Qui parle à Siri aujourd'hui?
Pour programmer ton alarme, tu le fais. Quoi.
Ouais, les gens s'en servent.
Ça marche sur deux.
Voilà, c'est
mais
ça.
Le fait est que le coup de génie d'Apple, enfin, si on s'en tient aux publications qu'ils ont faites, ce serait d'arriver à faire fonctionner cette intelligence artificielle, enfin ce modèle de langage, en local, sans accès au cloud. Ce qui est bien pour deux raisons. D'abord parce que, en termes de confidentialité, ça évite aux données de se balader à droite à gauche. Et puis en termes de réactivité. Le problème de ChatGPT, de Claude, de tous ces... de tous ces
modèles d'intelligence
artificielle, c'est que le temps qu'on lui pose une question mais qu'il réponde, il s'est déjà passé 2 secondes. C'est rien, 2 secondes. Mais normalement, c'est un peu frustrant.
Sauf Grok.
Oui.
Il est plus rapide, Grok.
Ah, Grok est instantané.
Pas celui
d'Elon
Musk, mais l'autre. Oui.
Non, voilà, le Grok avec.
Ah oui,
il est incroyable.
C'est incroyable. Voilà. J'avais reçu le patron de Grok, le CEO Jonathan Ross, qui est venu sur le plateau de Tech & Co.
Ah ouais, il est venu ici.
Oui, il est venu ici.
C'est un ancien Google.
Exactement. Et il est venu, c'était quoi, il y a 2-3 semaines. Interview à retrouver en replay, mon cher Salim.
Donc c'est intéressant.
Donc Siri passerait à la vitesse supérieure.
Voilà, Siri passerait à la vitesse supérieure, serait capable de faire plus de choses que ce qu'il fait aujourd'hui, et surtout, il agirait en local, donc ça évite tous les problèmes liés au cloud, puis ça permettrait de l'utiliser dans un avion, ce qui pour l'instant avec Siri est un peu compliqué.
Oui, je crois pas trop à cette option-là, même si c'est effectivement une des annonces d'Apple. D'ailleurs, il publie modèles en open source, hein, qui sont des modèles light, hein, des modèles très légers, qui peuvent tourner effectivement sur un iPhone. Hein. Le problème, c'est que ces modèles-là ne sont pas très puissants. Et leur discussion actuelle avec non seulement Google pour Gemini et d'autre part OpenAI pour probablement GPT 4.5... prouve qu'ils ne vont pas pouvoir faire tourner un GPT 4.5 ou un Gemini sur un iPhone. Donc, ils sont un peu bloqués. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où forcément le marché les pousse à aller vers l'IA. C'est le cas de Galaxy qui pousse, d'une part. D'autre part, leur promesse est fondamentale chez Apple. La privacy, c'est un élément clé de la stratégie d'Apple. Comment est-ce qu'ils répondent à la privacy en ayant une qualité de services équivalentes à leurs concurrents, tout en étant conformes à leurs promesses.
Ouais. Alors que l'IA, on le sait, se nourrit justement de tout ce qu'elle scrolle sur Internet.
Non, ils sont vraiment dans une position très délicate aussi sur le plan de l'IA. Et comme je disais tout à l'heure, je pense qu'avant la fin de l'année, on n'aura pas vraiment d'IA ou de nouveaux Siri opérationnels, je pense, sur les iPhones.
Eh ben alors, on aura un mauvais trimestre, un mauvais prochain trimestre, parce que si ils n'annoncent rien sur l'IA avec la sortie de l'iPhone 16, qui devrait
être en septembre, mais ce sera probablement pas dispo.
Ouais.
Je pense qu'ils vont annoncer.
C'est un bon moment pour acheter les actions Apple.
Oui, c'est ça, exactement. En attendant le prochain coup qui les fera monter. Il nous reste une trente. Demain, vous le savez, donc keynote Apple. Alors, petite keynote invisiblement, puisqu'il devrait annoncer. Didier,
de nouveaux iPads. Ouais, parce qu'ils n'ont pas été renouvelés depuis des mois, si ce n'est des années. Ouais. Donc,
L'iPad se porte mal, hein. Les ventes d'iPad sont.
C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Moi, je pense que l'idée de le positionner comme un concurrent à l'ordinateur, comme une alternative, est une bêtise. Mais là, il y a moyen avec. Donc, ils vont muscler l'iPad Pro. Vraisemblablement, ils vont introduire peut-être la puce M4, moi j'y crois pas trop, mais en tout cas la puce M3, c'est clair. Et puis ils vont sans doute renouveler aussi l'écran, qui sera un écran OLED.
Ça peut être pas mal.
Ça peut être très bien. Plus précis. Non,
franchement, la qualité OLED, c'est une qualité de confort visuel et de contraste et de beauté. Oui. Top. Oui. Je comprends pas pourquoi Apple ne l'ait pas fait avant. Hein,
les
tablettes Samsung, ça fait des années qu'il y a des
écrans OLED. Tu renouvelles pas juste pour ça.
Non, bien sûr. Il va avoir sans doute ils vont l'accompagner d'un stylet qui sera beaucoup plus performant.
Et l'iPad, cela dit, c'est l'ordinateur portable des nomades, en fait.
Des exécutifs, ce que je.
Non, oui, ou des exécutifs, mais aussi même. C'est les gens qui sont un peu digital nomades, il y en a pas mal, tu les vois dans des cybercafés avec leur iPad, etc. Parce que c'est juste pour faire un peu de.
Oui, du traitement de texte.
De traitement de texte ou un peu de TikTok ou machin, t'as pas besoin de.
Oui, mais t'as pas la productivité que tu as avec un vrai PC quoi, ou un vrai Mac.
Du montage vidéo avec un iPad, c'est pas facile. Mais
c'est pas évident.
Et puis la qualité des PC quand même, aujourd'hui des PC portables beaucoup plus légers, avec du touch. Ouais. Écran tactile. On a les deux écrans maintenant. On a vu ça. Enfin, les nouveaux là, on peut développer avoir deux écrans sur un seul. Enfin, le Yugi là.
Dit, tu peux avoir deux écrans avec ton iPad et ton Mac.
Oui, mais là c'est sur un seul écran. Ouais.
Ce qui est très étonnant, terminer, et ça a été à un moment donné. Il me semble évoqué par Apple, c'est qu'on n'ait pas eu une convergence entre macOS. Et iOS et
l'iPad OS. Ça arrive de plus en plus.
Parce que ce qu'a fait Microsoft, en effet, aujourd'hui, quand on achète un PC portable, en réalité, c'est aussi une tablette. On peut écrire dessus. Et Apple ne l'a pas fait. Alors qu'il pourrait avoir la puissance du MacBook, qui sont extrêmement puissants. Certains MacBooks sont vraiment très puissants. Et de l'autre côté, avoir un écran tactile où on retrouve la dimension iPad.
C'est le veto de Steve Jobs.
Et on en revient aux histoires d'humains. Ce n'est pas les mêmes équipes. Ils ne sont pas sur le même machin. Alors que chez Microsoft, on les a tous.
On dirait qu'ils n'ont pas innové.
C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure.
Bon, allez, voilà. C'était notre petite demi-heure Apple. Il y avait quand même pas mal de choses à dire. La suite au prochain numéro. Demain, on évoquera les annonces qui seront faites concernant les iPads, à mon avis, ça va aller vite.
Évidemment défendu à Apple ce soir.
Mais bien sûr, on le salue, Damien. Voir souvent.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
On débriefe l'actu tech ce soir avec Salim Nassur, qui est en train de s'hydrater. Il a bien raison, il faut s'hydrater. Didier Sens est avec nous aussi, Michel Lévy-Provençal et Frédéric Simotel. Et Sylvain Trinel nous a rejoint sur le plateau. Salut Sylvain.
Bonsoir.
Journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et aujourd'hui, on a appris donc le départ surprise de l'un des fondateurs de Blue Sky, le réseau social qui se voulait être une alternative à Twitter, on s'en souvient, désormais X.
Exactement, et c'est un départ qui interroge Jack Dorsey, il est plus connu pour avoir été l'un des fondateurs de Twitter. Il a annoncé tout simplement sur Twitter son départ du conseil d'administration de Blue Sky, ce fameux réseau social qui, à l'instar de Mastodon, permet d'ouvrir des serveurs avec des règles de publication et de modération spécifiques, tout en ayant la possibilité de suivre les publications de ses abonnements dans un fil commun. demain. Alors, début d'année, après des mois de bêta, on se souvient que Blue Sky était officiellement lancé, accueillant plusieurs millions d'utilisateurs. Ils sont plus de 5 millions aujourd'hui. Mais quelques mois plus tard, bon, le soufflet, il est un petit peu retombé. Bien qu'officiellement, le départ de Jack Dorsey n'a rien à voir avec une quelconque baisse de fréquentation.
Alors, la question à 1 euro,
oui,
cher Sylvain.
Probablement.
Qu'est-ce qu'il va faire, Jack Dorsey, après avoir quitté Blue Sky?
Eh ben, il était déjà peu actif hein, sur les réseaux sociaux. Il avait même fermé son compte Blue Sky l'an dernier. C'est dire,
c'est
Jack Dorsey,
bon.
Il a quand même partagé une publication laissant penser qu'il va se concentrer sur ses activités de philanthrope, notamment dans le domaine des logiciels open source. Du côté de Blue Sky, on essaye en tout cas de garder un peu la face en saluant son aide dans la création du réseau social, tout en expliquant être désormais à la recherche d'un nouveau membre pour son conseil d'administration. J'imagine que les messieurs autour de la table ont peut-être postulé, je ne sais pas, peut-être toi, François.
Mais bien sûr, évidemment.
Allons-y, et ben c'est parti.
Allez, je vais remplir le formulaire. Merci beaucoup, c'était
Merci.
Sylvain Trinel de la rédaction de Tech & Co. Et si vous voulez en savoir plus sur ce départ, bien évidemment, on vous invite à parcourir le site de Tech & Co. Messieurs, donc, le départ de Jack Dorsey, c'est quand même un personnage haut en couleur, hein, Jack Dorsey. On a parlé de Twitter, c'est aussi le fondateur de Square, hein, le système de paiement qui est bien connu. Voilà, il est richissime, hein, je crois qu'il fait partie des 300 personnes les plus riches des États-Unis. Il a un mode de vie un peu particulier aussi, Jack Dorsey. C'est quelqu'un, voilà, il aime bien méditer, il mange qu'une seule fois par jour. Enfin voilà, il est dans un mode, voilà, mais alors peut-être que tu, je sais pas, peut-être qu'il y a beaucoup de dirigeants de la tech américains qui sont un peu comme ça, dans la méditation, dans des, on va dire, des philosophies un peu particulières.
Dans la méditation, oui. Dans le fait de ne pas manger, ça dépend.
Bah lui, il mange une fois par jour. Hein, c'est ce qu'il dit.
Moi aussi, à peu près.
Dit, hein, voilà.
Mais bon, ça ne fait pas moi un dirigeant de la tech. Mais, enfin,
un peu quand même.
Oui, enfin. Puis maintenant. Mais non, ce qui est intéressant, parce que j'aime beaucoup Jack Dorsey. On en parlait tout à l'heure. Hein. Pour moi, c'est une no-news quand même. Parce que personne ne connaît Jack Dorsey, et encore moins Blue Sky. Je sais pas, vous avez utilisé.
Non. Alors moi je l'ai utilisé, pour tout te dire, tu as raison, je l'ai utilisé pour savoir où je mettais les pieds pour en parler.
Ah oui, à l'époque, ouais.
Ouais. on avait échangé 2-3 trucs avec Fred et puis bon, voilà quoi.
Donc pour moi, c'est une no-news.
Un peu comme Mastodon d'ailleurs. Hein,
oui, exactement. Forcément. Mais ce qui est intéressant, c'est le personnage.
Oui.
Le personnage, je trouve qu'il est, il est assez emblématique de l'ancienne garde de la Silicon Valley où tu avais des gens qui étaient des rêveurs et qui pensaient à faire de la tech for good, en fait. Et lui, il est plutôt dans cette mouvance-là. Je rappelle quand même que quand il y a eu la pandémie de Covid, il a donné 4 milliards de dollars de sa poche pour aider.
Ouais, donc, celui qui a fait venir Elon Musk à la tête de Twitter aussi, il faut le rappeler.
Oui, d'accord, mais justement, peut-être pour développer. Donc, et quelque part.
Tech for good.
Je sais pas, aujourd'hui, quand tu regardes quand même Elon Musk, tu peux dire ce que tu veux, il a quand même accéléré la transition électrique de l'automobile.
Non, mais ça n'a rien à voir avec Twitter. Tu d'accord?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as encore des dirigeants dans la tech, dans la Silicon Valley, qui ont cette vision de se dire je peux utiliser la technologie pour faire quelque chose de bien. Je pense que là, aujourd'hui, il est un peu en recherche de c'est quoi mon next move par rapport à ça. Il a essayé de lancer un nouveau réseau social, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, en vrai, on n'a pas besoin d'un nouveau réseau
social. C'était un protocole au départ. Hein, c'était pas,
oui, bien sûr.
La plateforme est venue après. Hein, au départ, c'était un protocole qui devait servir à Twitter et puis un truc décentralisé, justement, dans cet esprit qu'il a de décentraliser les technos. Ensuite, il a fait sa plateforme. Bon, voilà, il la lance au moment où Twitter est racheté. Il la lance au moment où TikTok est en train de grimper en flèche. Bon, voilà, c'est un peu compliqué. Il a même pas de compte. J'ai appris, je savais pas qu'il avait pas de compte sur Blue Sky. Je pense que c'est un personnage un peu atypique, voilà, qui cherche autre chose.
Tu lances un réseau social et t'as pas de compte, tu sais, le gars.
Mais
c'est cool.
Mais je pense qu'il a un côté un peu atypique, voilà. C'est comme tu dis, je sais pas si c'est s'il est que vegan ou s'il est autre chose, mais voilà, il aspire autre chose dans sa vie, voilà, tout simplement. Parfois, certains veulent continuer à faire faire vivre la boîte parce que ça les passionne, parce que la tech, puis voilà, il se cherche sur d'autres voies.
Michel,
Blue Sky, c'est 0,5% de l'audience de Twitter.
Ouais.
Donc c'est epsilon.
Je crois qu'il y a 5 millions d'inscrits et 2 millions d'utilisateurs actifs.
Oui, c'est ça. 2 millions d'actifs,
c'est pas énorme.
Il n'y a pas de modèle économique.
Il n'y a pas de modèle économique. Non, la seule chance de Blue Sky, c'est que Twitter soit banni. Donc, bon, on va voir comment ça se passe. Il y a peu de chances que Twitter soit banni.
Twitter est
sinon, c'est, et, non, mais parce que Blue Sky, c'est plus non, Twitter sûr. Que... Non,
ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus de chances que TikTok soit banni que Twitter.
Oui, oui, il y a plus de chances que TikTok soit banni que Twitter. Donc, on va voir. Mais en effet, c'est un non-événement par rapport
non, mais
à
Blue Sky. Le problème de Blue Sky, c'est qu'ils avaient une opportunité énorme au moment où il commençait à y avoir toutes les casseroles autour du rachat de Twitter et de l'arrivée de X... sous le règne d'Elon Musk, qui avait plein de choses à faire. Mais c'est pas dans leur ADN, c'est pas dans leur ligne politique. Les gens de Blue Sky, c'est des gens, c'est un peu des rêveurs, comme à l'image de Dorsey. Hein. C'est des gens qui veulent bien faire, donc c'est de l'open source, c'est de la décentralisation, ouais. C'est, voilà. Ils auraient pu, effectivement, en profiter pour devenir quelque chose d'un peu plus sérieux, ils l'ont pas fait. De toute façon, Dorsey, c'est quelqu'un qui est pas très constant, si on suit un peu sa trajectoire dans la Silicon Valley, c'est quelqu'un qui s'emballe très rapidement pour quelque chose, puis au bout d'un moment, bof.
Ouais, mais après, d'accord, après, mais il a quand même créé Twitter et fait Square quand même.
C'est ça.
Oui. Bien, mais ouais, c'est pas deux gros bides.
Et puis c'est bien qu'il y ait des gens comme ça, parce que sinon tu fais que des choses qui sont rationnelles. Donc il faut des gens comme ça
mais
qui
sont complètement différents. Je ne dis pas que c'est pas bien, ça, c'est bien ou pas bien. Je dis c'est un peu le personnage, c'est quelqu'un. Qui
Et puis la décentralisation et l'open source sont pas que des idées qui ne réussissent pas. Je rappelle qu'aujourd'hui le web tourne massivement sur de l'open source et que la décentralisation, je suis désolé, mais les blockchains et donc les crypto-monnaies, c'est de la décentralisation.
Oui,
le Bitcoin, l'Ethereum.
Je n'ai pas lié les deux. J'ai pas dit que ça marchait pas parce que c'était comme ça. Je dis que ses modèles à lui, c'est ça, c'est l'open source, la décentralisation.
Bon, ben voilà, on referme la page d'Orsay. On n'a rien dit. Hein ?
Ouais. Écoute, on verra où il rebondira, s'il rebondit quelque part ou s'il termine en ermite, parce que ce serait bien.
On a notre Jack Dorsay, alors. S'il m'entend, il va me détester. Mais le Jack Dorsey français, tu sais, Loïc Lemaire, en fait.
C'est vrai que Loïc Lemaire,
on a pas mal échangé. C'était vraiment le gars hyper dans la tech qui repassait d'un projet à l'autre.
Et d'un coup,
ça a fait. Il est reparti.
Il a eu quelques aventures dramatiques dans sa vie.
Bien sûr. Évidemment, il y a des côtés perso un peu compliqués. Mais n'empêche que je retrouve un peu ce schéma avec Jack Dorsey où à un moment, tu dis OK, je vais prendre un peu de recul et peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'il reviendra pas. Tu vois, bon, on verra.
Ouais, intéressant quand même. Il est 20h44. Tiens, prenons un peu de recul. Allons dans l'espace pour nous intéresser à ce décollage capital cette nuit pour la capsule Starliner. Et c'est Boeing qui est derrière ce truc-là. Ce vaisseau doit prendre son envol donc depuis Cap Canaveral à 14h34 heure française, donc cette nuit, avec deux astronautes à son bord. C'est une mission importante pour le groupe aéronautique après des années de déboires et de ratés. Et pas sûr pour autant que ça suffise pour concurrencer SpaceX. Les explications de Raphaël Couder et on revient juste après pour commenter tout ça.
Starliner doit permettre à Boeing de rejoindre le club très fermé des entreprises capables de transporter des humains dans l'espace. À son bord, deux astronautes aguerris, Butch Wilmore et Sonny Williams, qui s'envoleront cette nuit en direction de la Station Spatiale Internationale. La réussite de cette mission viendrait clore sur une note positive la saga d'échecs et de reports qui a marqué le développement du vaisseau. Boeing espérait en effet réaliser ce vol habité dès 2022, mais des problèmes sur les plans logiciels et mécaniques ont multiplié les retards. Starliner doit permettre à la NASA d'alterner avec SpaceX pour acheminer ses astronautes vers l'ISS. Pour autant, l'avenir commercial du vaisseau de Boeing apparaît plus qu'incertain. De son côté, le Crew Dragon de SpaceX enchaîne les succès. Le groupe d'Elon Musk a déjà vendu 8 vols supplémentaires à la NASA d'ici 2030. SpaceX a par ailleurs pris une avance considérable dans les vols touristiques, un domaine dans lequel Boeing va également devoir faire face à la montée en puissance de tout un écosystème de start-up qui rivalise de projets innovants.
Donc voilà, cette belle capsule qui, rappelons-le, s'appelle Starliner. L'objectif, vous l'avez compris, c'est qu'elle doit propulser deux astronautes vers l'ISS. Ça paraît simple comme ça, mais évidemment, vous l'imaginez, c'est très compliqué. Et c'est un moment très important pour Boeing parce que, voilà, on sait que en ce moment, les activités de Boeing sont plutôt malmenées, Didier. Le Boeing 737 Max, espérons que le hublot de... du Starliner ne s'ouvre pas.
J'hésitais à la faire, celle-là.
Non, mais voilà.
fallait la faire.
C'est ça. Non, mais souhaitons-leur évidemment que ça se passe bien. Mais et c'est vrai que ce lancement arrive dans un contexte un peu compliqué quand même pour
vous. Oui, c'est une entreprise qui a connu beaucoup de difficultés, ouais. qui a voulu se lancer.
Ça devient presque un cas d'école, hein, finalement, Boeing. Je pense que dans quelques années, on enseignera la déliquescence en fait, de Boeing. Qualité, c'est fou quand même.
Ouais. Moi, j'appelle ça avec mes enfants le syndrome Jean-Michel à peu près, mais j'en reparlerai après si tu veux.
Mais oui, donc c'est un moyen. Enfin, l'espace était pour eux un moyen de redorer un peu leur blason. Hein. Ça a échoué. Hein. Ils ont essayé de faire leur première capsule. Mes souvenirs sont bons dans les années 2019. Ça n'a jamais marché. En 2022, ils ont envoyé.
Bon, le premier programme, c'est 2011 même. Tu vois, avant que la capsule arrive 7 ou 8 ans plus tard.
Et ils ont fait un vol qui, d'ailleurs, était inhabité. Et puis, j'allais dire Starlink. SpaceX est arrivé là et eux, ils ont raflé tous les marchés et leur truc marche. Ce qui est quand même incroyable qu'une entreprise d'aéronautique comme Boeing se fasse damer le pion par une petite start-up qui vient de nulle part.
C'est terrifiant.
Et maintenant, ils arrivent donc avec 4 ans de retard sur un marché qui, effectivement, comme on le dit dans le commentaire, est sous la coupe de SpaceX et de plusieurs start-up qui arrivent sur le secteur. Et puis surtout, ils arrivent au moment où on va démanteler l'ISS, donc la station internationale, puisqu'elle est censée, cette capsule, faire l'aller-retour avec la station internationale, mais la station internationale va être démantelée dans 4-5 ans.
Oui, 2030.
Donc elle ne servira plus à rien, à moins que d'autres projets...
Après, il y aura un remplaçant
de l'ISS.
Il y aura un remplaçant de l'ISS et peut-être qu'il y aura sans doute encore
Est-ce que les gens feront encore confiance à Boeing? C'est une autre histoire.
Ouais, c'est clair. Qui va enchaîner sur Boeing?
Moi, ce qui est intéressant, c'est l'effet l'ombre de Boeing qui apporte la lumière en réalité à SpaceX et à Starlink d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous avez forcément lu la biographie d'Elon Musk, d'Isaacson, mais aussi il y a un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps par un Français qui s'appelle Michael Valentin, qu'il a titré La méthode Elon, et qui explique comment Musk a véritablement révolutionné cette industrie spatiale en partant de rien. Et cette capacité qu'il a à recréer, ce qui a été le cas aussi avec Tesla, à recréer des nouveaux process, à revoir complètement la chaîne de fabrication, en réalité, ça a été une véritable locomotive pour tout le secteur. Et d'une certaine manière, on va le voir ce soir. Est-ce que Boeing va se hisser au niveau de SpaceX ou pas ? Est-ce que Musk va être véritablement une locomotive pour l'ensemble du secteur ou pas ? Si ça marche, c'est que il aura été d'une certaine manière dans le for good, hein, puisque c'est aussi son objectif. Il le dit.
Oui, mais ce qui est intéressant, notamment avec Musk, c'est qu'il se pose des questions autrement. C'est-à-dire, il a dit tiens, qu'est-ce qui coûte cher dans une fusée? Ah bah c'est les lanceurs. Mm. Bah faudrait qu'ils reviennent alors. Ben oui. Enfin, je prends un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres.
Et on se souvient tous les ingénieurs aérospatiaux disaient c'est impossible, on pourra jamais refaire revenir des lanceurs, etc. Alors il en a explosé quelques-uns quand même.
Les histoires de.
Mais un jour, il est arrivé à reposer ses lanceurs.
Histoire de peinture aussi, de peinture, ça coûte cher peinture, bon, on va mettre un autre type de peinture, on verra bien. Et puis, et puis en tâtonnant, il est arrivé au bon truc. Et qui
plusieurs
coûte,
fois, il est passé à
côté
de la faillite. Hein.
La méthode est bien connue. Ça ne peut jamais se faire. La méthode First Principle, c'est en fait, tu repars de la base, en fait, tu vois. Et c'est vraiment celle qu'il applique toujours. Elon Musk, il a fait la même chose sur les batteries avec Tesla. Tu parles effectivement des lanceurs. C'est si tu devais tout recommencer, par quoi je commence et qu'est-ce qui est le plus essentiel.
Il a tout recommencé, c'est pareil avec Tesla, on en parlera tout à l'heure.
Il a tout recommencé. Chez Google X, c'était aussi ce fameux 10X, c'était le leitmotiv, c'était de se dire, ok, finalement, est-ce que ça revient pas moins cher d'essayer de repartir d'une feuille blanche plutôt que d'essayer de faire de l'incrémental de 10%. Et c'est vraiment ce que fait Elon Musk, c'est de se dire, je reprends feuille blanche, qu'est-ce qui est le plus structurant, comment je réduit ça de façon dramatique et je fais un bond quantique. Mais bon, et c'est là où il arrive à prendre tout le monde.
Il a aussi un excellent entourage quand même.
Pardon ?
Oui, il a pris
mais justement, ça, on en revient au point de Frédéric tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu es un ingénieur aéronautique, tu as envie d'aller bosser chez Boeing ou tu as envie d'aller bosser chez SpaceX ? Tu vois, c'est ça aussi. Tu vois, c'est pour ça que souvent, leadership.
Moi, j'avais interviewé un ancien astronaute de la NASA qui avait été l'un des premiers directeurs techniques de SpaceX. Et sur un projet, il me racontait, Elon Musk dit, là-dessus, sur la NASA, on était 60. ok, bah vous allez le faire à 12. Enfin, c'est, débrouillez-vous. Et le type dit, bah, du coup, on a réfléchi à plein de choses pour le faire autrement. Mais moi, je trouve que par rapport à Boeing, tu vois, c'est là où je suis, bon, au-delà des histoires Boeing, l'aéronautique, ce qui se passe en ce moment, c'est que, ils partent pas du besoin. C'est quoi, comme tu dis, Didier, ils vont alimenter l'ISS. Bon, on a besoin, oui, il y aura peut-être une future station, il faudra alimenter aussi. Mais c'est de dire, tiens, pourquoi on pense pas différemment? Pourquoi on dit, pourquoi un vol habité? Est-ce que, aujourd'hui, allez, on laisse les vols habités à SpaceX, et nous, si on faisait un vol avec que des robots à l'intérieur pour aller réparer les... Enfin, voilà, des besoins comme ça, se dire, tiens, on va pas pouvoir, en plus, avec toutes les casseroles qu'on serait dans ce moment... Alors, certes, on va se redorer notre image, mais est-ce que redorer l'image, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important? On n'est plus dans les années 60, où il fallait aller sur la Lune avant les Russes et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle marché, on parle business? Jeff Bezos, il dit, bah, moi, c'est envoyer des touristes dans l'espace, je veux aussi peut-être faire une station spatiale, tu vois. J'aurais plus cru à une stratégie Boeing s'il avait dit, voilà, nous, on a notre objectif, c'est, je sais pas quoi, réparer des satellites. Et,
ils sont plus meneurs.
Tu vois, non, mais regarde, et j'aurais mis un truc avec des robots, par exemple, je sais pas.
Oui, mais justement, encore une fois, là, tu parles de et ce qu'on appelle du leadership transformationnel, en fait. Quelle est la mission de l'entreprise? Qui est-ce qui t'emporte, en fait? Aujourd'hui, tu es capable de dire, OK, SpaceX, Elon Musk. Je dis, OK, c'est qui en face chez Boeing? C'est qui le patron de Boeing? Personne n'est capable de dire qui est le patron
plus,
de Boeing.
En plus, il change tous les 6 mois. Voilà. Ouais. C'est donc, ça le problème.
Tu n'as pas quelqu'un qui va amener l'ensemble de l'entreprise, du secteur, et donc recruter les bons talents. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas ce leadership transformationnel qui va...
Je ne sais pas si vous avez lu, il y a pas mal d'analyses sur la déliquescence de Boeing, et elle est due, en fait, à un changement du conseil d'administration, où avant, il était dirigé par des ingénieurs, et maintenant, ce sont des financiers.
Ouais, mais
il paraît que ça a tout changé.
Je te disais,
ils ont voulu faire des économies sur la R&D, sur plein de choses. Ils ont voulu optimiser en fait le rendement des Boeing, et ça a été une catastrophe parce que les ingénieurs n'avaient plus la place qu'il leur fallait pour s'exprimer. Et on le voit, c'est terrible. Les conséquences sont dramatiques.
Et puis il y a Boeing, je pense qu'ils sont encore en train de se dire comment on va faire pour vendre à la NASA. T'as envie de leur dire, mais les gars, il faudrait peut-être aller voir les autres. Puis on sait qu'en Chine, c'est en train de bouger, l'Arabie Saoudite. Enfin,
à quelle heure est le lancement?
4h34.
Tu vas regarder?
Allez.
Mais... Non, mais on va mettre le réveil. Il nous reste quelques minutes avant.
Je rebondis sur ta blague. Je serais pas rassuré si j'étais les deux astronautes quand même.
Tu crois?
Avec toi. Ah ouais. Non, mais franchement.
Parce que c'est un vrai problème de process.
Il y a un problème de process.
Après, je pense qu'ils ont été rassurés aussi par je veux dire, c'est un projet qui est complètement décorrélé de l'aviation.
D'accord.
De Boeing.
Mais je suis quand même pas super rassuré.
C'est sûr. C'est vrai. Non, mais tu as raison. Tesla, ça bouge chez Tesla, et pas forcément dans le bon sens. Encore une fois, Elon Musk fait ce qu'il veut, et c'est normal, c'est le patron. Il l'a annoncé, à licencier vraiment du personnel dans ses équipes de logiciels et de services, et notamment tout ce qui touche aux superchargeurs. Et ça, c'est quand même assez étonnant, quand même. Et c'est plusieurs centaines de postes, pour, on va dire, des services qui ne sont pas liés à la construction du véhicule. C'est vraiment des services...
superchargeurs.
Voilà, superchargeurs. Je crois qu'il y a aussi une partie logicielle. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi il dégraisse comme ça, alors qu'on sait que l'un des succès, en fait, de Tesla, c'est les superchargeurs.
Moi, je le soupçonne de faire un coup à nouveau. Parce qu'il y a une semaine, il a fait un coup en annonçant qu'il allait sortir une citadine. Le cours de bourse a pris, je ne sais plus combien, près de 40%. Ouais. Là, il est quand même dans une mauvaise passe. Les ventes ne sont pas super.
Oui, elles sont pas très bonnes, les ventes.
Donc, est-ce qu'il ne nous refait pas un coup en annonçant dégraisser 10% et puis il a trouvé les superchargeurs? Mais il n'a pas dit qu'il arrêtait complètement. Il a dit qu'il
continuerait. Non, il ralentissait la croissance.
Est-ce qu'il n'est pas en train de jouer avec le cours de bourse à nouveau? On va voir.
Et puis je pense qu'il peut y avoir aussi, parce que en gros c'est parti aussi quand tu cherches un peu tout ce qui est dit sur les blogs, sur les trucs, t'as la patronne justement des superchargeurs qui s'appelait Rebecca Tinucci, elle, quand il a dit bon il faut qu'on licencie, donc vois dans tes équipes qui ont pu licencier, puis elle a dit ah non, moi je me bats jusqu'au bout, on licenciera personne chez moi, c'est
trop important. C'était la première, etc. sur la liste.
Et du coup il a dit bon allez, non seulement toi t'es viré, puis bon tout est gardé.
Bah, il faut avoir quand même finalement.
Oui. Ouais, non, mais.
L'aplomb pour tenir tête à Elon Musk, hein, parce qu'on sait que ça se termine mal, hein, en général. Hein.
Oui, mais parfois, il y a aussi on a déjà vu d'autres qui lui ont un peu résisté, qui ont tenu un peu sur certains trucs. Et puis, si elle était persuadée, elle s'est dit, ce gars-là, parfois, il faut lui résister un peu. Et là, non, ça l'énervait trop. Et puis, je pense qu'il y a aussi le coup de tête du manager qui dit, bon, puis, allez, tu me dégages tous les gens, là, et puis on va en trouver d'autres. Mais comme on dit, il a pas arrêté. Il arrête pas ça, hein. C'est juste qu'il ralentit le développement.
Non, mais c'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure le trou d'air d'Apple, c'est un peu le trou d'air de Tesla aussi, hein. Ils vendent beaucoup moins de voitures, ils se retrouvent avec des stocks phénoménaux de Tesla qui n'arrivent pas à écouler. Tu sais,
toujours le même problème, la Chine.
Hein. C'est ce qu'il y a de pire pour un constructeur automobile de se retrouver avec des stocks aussi de voitures. Hein.
Provisionnement par les tankers.
Oui. Non, puis tu sais, rappelle-toi, dans les usines, quand il y a eu le changement, ils avaient changé un peu le mode. Ils gardaient la même usine, mais ils changeaient un peu les machines pour passer du modèle S au modèle 3. C'était pas allé assez vite. Il avait viré une centaine de personnes en disant, attends, vous êtes des incapables. Je mets tout le monde. N'oublions pas que Musk a ce côté aussi peu.
Là, on est quand même dans un schéma qu'on a déjà connu ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas l'activité stratégique, les superchargeurs. Il essaie de garder le maximum de.
Non, mais ça pourrait le devenir demain, hein, Didier.
Mais c'est déjà lancé, tu vois. Il se dit c'est fait.
Parce qu'aujourd'hui, les superchargeurs sont ouverts à tous les véhicules. Et demain, ça peut être, à mon avis, une manne financière importante pour Tesla.
Mais t'as pas
le fait que moi, avec ma Zoé, je puisse me brancher sur un superchargeur.
T'as pas besoin de 5000 personnes qui vont s'en occuper dans ce cas-là.
Je pense qu'en réalité.
Mais au niveau mondial, tu te rends compte un peu la logistique de ce truc-là.
Il est à espérer que ces actions montrent clairement que nous devons être absolument intransigeants en matière de réduction des effectifs et des coûts. Si certains membres de l'exécutif prennent cette question au sérieux, la plupart d'entre eux ne le font pas encore. Il y a un côté aussi
exemplaire. Je vous montre l'exemple.
Ça suffit maintenant.
Ouais. Ah. D'ailleurs, il a fait ça avec l'équipe marketing aussi. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il a recruté quelqu'un au marketing en début d'année. Le gars a recruté 40 personnes et du jour au lendemain, il les a virées. T'imagines,
c'est horrible.
Ouais. C'est horrible. Et c'est un vrai danger, d'ailleurs, moi, que je vois pour Tesla, c'est qu'à un moment, les gens vont commencer à ne plus avoir envie d'aller bosser dans les boîtes d'Elon Musk. Parce que tu peux être porté au nu du jour au lendemain, et puis le lendemain.
Bah, ils iront chez Boeing, alors.
Ils iront chez Boeing.
Mais d'ailleurs, il y a plein de boîtes qui sont en train de. Il y a des sociétés qui s'intéressent, justement, qui ont lancé des profils LinkedIn pour recruter tous ces ingénieurs des superchargeurs.
Oui, et puis il y avait aussi un site, depuis les gros layoffs, enfin, toutes les personnes qui ont été licenciées dans les GAFA, il y a un site, je me souviens plus du truc, où tu as tous les gens qui sont listés, en fait, ceux qui ont perdu leur job et qui peuvent être récupérés dans d'autres entreprises.
Pardon, vas-y, je t'en prie.
Sur la stratégie, moi je me questionne quand même sur. Et j'ai pas les clés, donc c'est vraiment une question que je vous livre, hein, mais est-ce qu'à un moment Elon Musk n'est pas en train de se rendre compte que. Voilà, il y a eu l'heure de gloire de la voiture électrique.
Oui, oui.
Et maintenant, il y a, au niveau des ventes, justement, ça devient plus compliqué parce qu'il y a les Chinois qui arrivent, alors big time, vraiment, de façon très forte. Ouais. Les Européens qui sont aussi là parce qu'il y a toutes les voitures qui étaient au même niveau que le modèle S. Donc aujourd'hui, tu as des Porsche, tu as des Jaguars, tout ça, ça s'électrise. Donc le marché devient un peu plus tendu. Il n'est pas encore écarlate, hein, mais ça devient de plus en plus tendu. Au niveau des superchargeurs, tu as quand même notamment un Total Energy qui est en train de reconvertir de plus en plus toutes ces stations-service en stations de charge électrique. Donc c'est quand même un élément qui lui fait peut-être se dire « Bon, ben j'ai ouvert la voie, j'étais plutôt très bien placé. Maintenant, ça commence à se complexifier un petit peu par rapport à... »
Donc je lâche cette
partie-là. Et que j'aille là où il y a un océan bleu, c'est-à-dire les robots-taxis. Ouais. Parce qu'il n'arrête pas de dire robots-taxi. Et aujourd'hui, à part Waymo, il n'y a pas grand monde encore là-dessus. Alors, c'est peut-être ça, en fait, dans sa tête, de se dire « Bon, là, ça commence à être un petit peu rouge, je vais aller là où il y a du bleu. »
On va continuer, on va terminer sur... Parce qu'il y a une autre petite news qui est très, très, très savoureuse concernant Tesla. C'est le fait que, simplement grâce à une mise à jour, tu peux gagner 70 km d'autonomie. Moi, je trouve ça quand même assez fort. On va en parler. Juste une petite pause, parce que l'heure tourne, il est bientôt 21h, et on revient pour débriefer l'actu avec, pour cette dernière demi-heure, toujours Frédéric, Michel, Salim et Didier. Merci d'être là, tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne. Le débrief de la tech.
Voilà, le retour de Tech & Co, la quotidienne. On débrief l'actu jusqu'à 21h30, en ce lundi 6 mai 2024. Didier Sens est avec nous, Salim Nassur, mais aussi Michel Lévy-Provençal et Frédéric Simotel. Tiens Michel, parle-nous de ton TEDx qui est en train de se préparer, qui arrive bientôt, le TEDx Paris.
TEDx Paris, ce sera le 11 juin au Grand Rex, avec une édition optimiste.
C'est toi qui l'organise, hein, le TEDx.
Oui, c'est moi qui organise TEDx Paris.
La classe,
seul, évidemment.
Hein.
Mais
je suis organisateur du TEDx Paris, les gars. Trop bien.
Il y aura plusieurs scènes ou il y aura juste une scène?
Non, jamais plusieurs scènes. Il n'y a qu'une seule scène et c'est un programme linéaire. On ne paie rien, il n'y a pas d'effet FOMO. On vient et de bout en bout, on reste dans la salle. Et d'ailleurs, on n'annonce aucun speaker.
Oui, on les découvre.
On les découvre au fur et à mesure.
Et ça fait partie du marketing de TEDx.
Pas du marketing, je dirais plus de l'expérience. C'est-à-dire qu'on est là pour être surpris, on est là pour découvrir.
Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des mauvaises surprises?
Tout le monde a peut-être des mauvaises surprises. On l'espère que ce sera que de bonnes surprises.
Donc, tu es en train de monter le casting de TEDx, c'est ça?
Il est terminé.
Il est terminé.
Pourtant, tous les intervenants sont et intervenantes sont identifiés, calés, et sont en train de répéter. Il y a déjà 4 ou 5 répétitions par intervenant qui ont déjà été réalisées.
Le top. Quels sont les thèmes qui vont être... ça, tu peux nous le dire au moins,
entre
nous.
On va parler, on est en famille, Michel. On va parler de neurotech, pas mal, sur cette édition. On va parler aussi, évidemment, de sujets autour de la situation culturelle et sociale dans nos sociétés, l'hyperpolarisation de nos sociétés, comment on peut en sortir. C'est pas qu'un événement tech, hein, c'est aussi un événement culturel.
Bien sûr.
On va parler, bien sûr, de production et de consommation responsable. On va parler d'agriculture, nouvelle forme d'agriculture. On va parler de plein de sujets passionnants. Il y a des artistes aussi qui sont présents. Donc ça va être à peu près 2h30 de programme. Une soirée, on commence à 19h, on finit vers 21h30, 22h, peut-être que ce sera plus long. Et j'espère que ça va beaucoup plaire à notre communauté. On sera près de 3000 au Grand Rex.
Mmh. Pas mal. Ouais, ça donne envie, hein.
Écoute, certains d'entre vous sont déjà invités.
Ouais.
Les VIP et les autres.
Ok, Michel, je note.
Le problème, c'est que bien sûr,
vous serez invités.
Si tu nous invites et qu'on a l'antenne, nous, on va être bloqués.
Oui,
ça va être compliqué.
Je sais.
Ça qui est difficile. Que voulez-vous? Toutes nos soirées sont on passe nos soirées ensemble avec Frédéric.
Mais je sais.
C'est ça qui est terrible.
Écoutez, séchez ce soir-là et venez à TEDx Paris. Faites une édition spéciale pendant TEDx Paris.
Ouais, on mettra notre jumeau numérique à l'antenne pour voir ce que ça donne.
On mettra Frédix.
Frédix. Et Sorélix. Ça va être sympa. Bon, on repart. On est ensemble, vous savez, jusqu'à 21h30 pour débriefer l'actu. On va parler de Bill Gates dans un instant, mais on va terminer sur Elon Musk. Parce que, évidemment, on revenait sur cette vague de licenciements massive, quand même, 10% de l'effectif de Tesla. Ça représente 14 000 individus, hein, quand même, avec le superchargeur qui va passer en mode ralenti, en quelque sorte. Et alors, deuxième petite news qui me fait quand même sourire et qui montre aussi, quand même, la vision du smartphone sur roue qu'a Elon Musk de sa voiture. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais en fait, Tesla prévoit de facturer certains propriétaires de modèles Y, je crois que c'est entre 1500 et 2000 $, pour gagner 70 km d'autonomie. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que les nouvelles batteries qu'ils mettaient en place...
96 km.
En fait, tout dépend, je ne sais plus quoi, si c'est WLTP ou je ne sais pas quoi. Enfin, jusqu'à 96 km. Parce qu'en fait, les nouvelles batteries qu'ils mettent sur les nouvelles modèles Y, simplement par une mise à jour logicielle, permettent de débloquer encore plus d'autonomie. Je crois qu'on passe de 70 kW à 75 kW et on gagne donc 100 km d'autonomie. Et ça, il faut passer à la caisse, Didier.
Oui, alors il y a une question de technologie de batterie. Je n'ai pas très bien compris, apparemment.
Je crois que ce n'est pas tous les nouveaux modèles, en fait. Tout dépend de la chimie qu'il y a dans les véhicules.
Ça concerne les modèles Y récents et qui utilisent une technologie de batterie particulière. Mais on voit très bien l'idée qu'il y a derrière. C'est-à-dire que maintenant, tu vas payer ton abonnement ou tu vas payer ton option pour avoir quelque chose de plus sympathique sur ta voiture.
Mais c'est déjà le cas chez Tesla depuis de nombreuses années. Je ne sais pas si vous vous souvenez, excuse-moi, je te coupe.
Pendant
le Covid, vous vous souvenez de ce qu'avait fait Elon Musk pendant le Covid? Il avait débrayé les batteries des Tesla pour que les personnes qui devaient retrouver leurs enfants ou leur famille, etc., puissent gagner en autonomie. Il avait laissé en fait cette possibilité pendant le confinement et après il avait enlevé. C'est incroyable, c'est-à-dire que simplement par une mise à jour via la 4G, il rajoutait je ne sais plus combien de dizaines de kilomètres d'autonomie.
Ça confirme ce qui arrive aussi avec les objets technologiques. Tu n'es pas propriétaire de ta voiture puisque quelqu'un peut faire ce qu'il veut à distance.
Évidemment.
Non, moi, ce que je trouve génial dans le modèle, c'est que c'est justement que les gens trouvent ça génial alors qu'en fait, c'est quand même une grosse arnaque. en réalité.
C'est une arnaque.
Non mais,
on est d'accord. Mais bon, est-ce que t'es pas prêt? Tu vois, t'es propriétaire d'une Tesla, on te dit, tu rajoutes 1 500 $ ou 2 000 $, t'as 100 km de plus.
Non, tu veux les 100 km d'entrée.
Mais non, mais c'est pas ça le sujet. Ouais, en fait, non, mais c'est pour ça que c'est une arnaque. C'est que toi, tu trouves ça fabuleux, alors que quand même, ils te vendent un produit.
Non, je trouve pas ça fabuleux, je suis d'accord, c'est scandaleux.
Ils te vendent un produit, mais ça, ça existe depuis toujours, en fait, en réalité, dans la tech. C'est le modèle freemium. T'as un modèle qui est gratuit à la base. Donc on te rend addict à ce que tu utilises.
Là, elle est pas freemium la voiture.
Non mais d'accord. Mais ce que je veux dire c'est qu'en fait dans un modèle freemium tu as toutes les fonctionnalités et au bout d'un moment on te dit si tu veux vraiment toutes les utiliser tu payes. Là lui il te le fait un petit peu différemment, il te dit je te donne toutes les fonctionnalités à un prix mais si tu veux utiliser vraiment toutes les fonctionnalités, il faut que tu payes en plus. Et là, je trouve que c'est... On rentre vraiment dans un truc un peu dangereux parce qu'à un moment, il va te dire « Ouais, mais alors, attends, si tu veux le clignotant, tu vas payer. Si tu veux le... Si tu veux les
parts... » Non, je ne suis pas complètement d'accord avec toi.
Tu as le droit de ne pas être d'accord, bien sûr.
Bien sûr, merci. Mais ce que je veux dire par là, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que l'évolution, en tout cas, les fonctionnalités supplémentaires, elles arrivent avec du software qui évolue et qui avance au fur et à mesure qu'il y a de la recherche qui est faite et au fur et à mesure qu'il y a des investissements qui est faite. Je vous rappelle quand même que Tesla, dans l'idée de Musk, ça doit être une plateforme qui doit être standard et la plus simple possible. C'est pour ça qu'il n'a pas intégré, par exemple, les lidars, mais qu'il a absolument des caméras traditionnelles pour pouvoir donner à la voiture des capacités d'autonomie, parce qu'il mise sur le software pour pouvoir, demain, avoir des voitures autonomes à partir de la même plateforme technologique hardware. Donc, pour aujourd'hui, il ne peut pas le faire. Il y a une version du FSD, c'est-à-dire du modèle d'autonomie, qui est plus ou moins correct. Mais demain, peut-être dans 3 ans, ou peut-être même avant, on aura une version de l'autonomie qui aura été financée par du software. Il y aura eu des investissements. Et ce coût-là, bah, il faut bien le payer quelque part.
C'est pour ça que c'est Musk lui-même
qui le décrit.
Ils ont viré les 40 gars du marketing. Ouais. Donc là, le marketing, il fait n'importe quoi. Justement. Il est en roue libre.
Non, mais même, j'étais déjà un petit peu aux fraises avant. Mais non, mais quand je dis t'as raison d'y croire, c'est que dans l'absolu, t'as raison. C'est-à-dire que oui, l'innovation, qu'elle soit software ou hardware, ça a un coût, donc il y a bien un moment où l'utilisateur doit payer. Là où c'est, et tu as raison de le rappeler, hein, où tu peux quand même avoir des doutes, c'est qu'à un moment, quand il veut débrayer, il débraye. Ça n'a pas coûté plus cher. L'innovation était déjà là.
Comme c'était dans un contexte sanitaire un peu particulier.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'innovation, elle avait déjà été payée, donc tu pouvais débrayer. Encore une fois, ça, c'est un modèle que l'on voit depuis très longtemps.
Ce qui est dur à digérer, c'est de savoir que tu as un hardware complet qui est dans ta voiture, mais qui n'est pas débridé, et tu dois payer pour pouvoir utiliser tout le hardware que tu as acquis, finalement. Parce que là, pour qu'on soit clair, en fait, quand vous achetez un modèle Y, vous achetez une batterie qui fait 75 kWh, d'accord ? Sauf qu'elle est, par le soft, bloquée à 70. Ce qu'il fait là, c'est qu'il débloque en fait les 5 kWh de RAB qu'il y a sur certaines de ces batteries pour vous donner ces 100 km en plus.
Et tu les as, les 75. Pourquoi ils te les donnent pas tout de suite?
Ben voilà.
Et
tu parce vois, qu'on et les paye.
Non, mais
les 75, ouais, tu les payes.
En réalité, quand tu achètes une Tesla, t'achètes un contenant. T'achètes pas un contenant.
Ouais, mais c'est compliqué.
Non, mais
à
je vais te donner un autre exemple qui est hyper important. Et c'est là où je te rejoins complètement, où tu t'arrives dans un monde où tu n'achètes plus un produit. Et c'est ça qui est dommage. Tu vois, si tu prends, notre cas que je connais bien, les Google Home. Tu vois, Google Home, à un moment, t'achètes un produit à un prix donné. Et à un moment, le produit se dégrade. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont fait taper par Sonos, parce qu'ils avaient utilisé des brevets qu'ils n'avaient pas. Donc à un moment, toi, t'as acheté un produit où tu peux faire du multi-room. C'est pour ça que tu l'as acheté, mais on te dit ah ben non, on peut plus faire du multi-room parce que c'était pas notre brevet. Bah t'as toujours ton produit, ouais, t'as pas rendu de l'argent.
On va pas te rembourser.
On t'a pas rendu de l'argent, mais par contre t'as plus la fonctionnalité. Et c'est ce qui risque d'arriver là, c'est-à-dire que on va te rajouter des fonctionnalités, tu payes un peu plus, et on va t'en enlever, tu payes pas moins par contre. Et ça, c'est, je trouve que c'est un peu une arnaque.
Mais c'est un peu le principe des t'as beaucoup de constructeurs voitures qui vivent comme ça, hein, dans beaucoup des concessionnaires européens. Tu as sur ton tableau bord, t'as 2-3 boutons qui sont noirs. Oui, tout simplement parce qu'on ne les a pas activés. Et si un jour, et t'en as qui viennent pirater, hein, tu as des garagistes qui sont spécialisés là-dedans, ils viennent te pirater, ils te mettent en marche la fonction, ils t'enlèvent le bouton noir, ils te mettent le nouveau bouton de la clim, de je ne sais quoi, enfin différents. Voilà, ils ont tous fait ça. C'est le moyen de vendre des options et de
peut-être qu'on pourra avoir le bouton.
D'avoir, non, mais d'avoir une base de données.
Encore, c'est ton garagiste, là, il le fait à distance.
Oui, c'est ça.
Moi, je trouve ça effrayant, cette capacité d'agir sur un véhicule à distance.
Tu le mets dans ton garage, tu te réveilles le matin, t'as plus la vue.
Vous voulez qu'il freine ?
Bientôt, il va nous changer la couleur des sièges. Et on va pas comprendre pourquoi.
Mais on mettra du rouge et tout ça. Mais bon.
Enfin, cela dit, c'est pas la première fois qu'il nous fait ce coup. Hein. Je rappelle que les fonctions débridées d'autopilote, c'est payant après. C'est-à-dire que vous pouvez soit l'acheter quand vous achetez la voiture, mais vous pouvez, 6 mois après, rajouter plusieurs. Alors,
c'est pas vital à ta voiture, tu t'en fous.
Moi, c'est le monde du software. Hein. C'est ça aussi.
Ça aussi, c'est une révolution Tesla. Aucun autre constructeur de véhicules s'aventure là-dedans aujourd'hui. C'est très intéressant.
Mais si, je crois qu'il y a Mercedes. J'ai lu un truc comme ça. Il y a Mercedes.
Il qui se lançait là-dedans aussi.
Oui, non, qui a fait payer un update software comme ça. Je ne sais plus sur quel sujet. Ouais.
C'est à eux que je pensais quand je parlais
de ça. Oui, c'est ça. Ouais.
Bon, après Elon Musk, qui ont parlé de Bill Gates. Oh. Ah, toi, tu l'as connu en plus, Bill Gates. Tu l'as rencontré.
Oui, trois fois.
Trois fois.
Donc une fois ici. Ouais.
Une fois
dans une autre vie où il venait, alors pour la petite histoire, c'était chez Bouygues, à la direction informatique de Bouygues qui venait de déménager, qui était à Challenger, et il était venu pour remettre en main propre OS2. C'était lui qui était venu l'emmener, donc puisque t'es un gros client, et puis après deux fois dans le 4201.
T'avais fréquenté à cette époque-là aussi.
Ouais, toi aussi, tu l'avais rencontré.
Et une fois dans le 4201, et puis une fois, il était venu sur l'antenne de BFM TV en 2006.
Oui, c'est vrai.
Et on l'avait interviewé, on avait gardé son coca sous une cloche.
Ça avait été une catastrophe d'ailleurs, cette interview, je crois.
Oui, c'était la première interview. Catastrophe technique.
Technique, on va dire.
Bill Gates, c'était un personnage intéressant. Là, il y a quelques articles qui sont sortis, on en parlait l'autre jour. De personnes qui disent que finalement, bon, Satya Nadella, il manipule un peu tout ça, mais que derrière, c'est quand même Bill Gates. C'est Bill Gates qui a repéré.
C'est lui qui tiendrait la.
C'est lui qui aurait repéré OpenAI dès le début, qui aurait repéré.
La marionnette Satya Nadella.
Il aurait repéré deux, trois gars d'OpenAI, il aurait dit à Satya Nadella, tu devrais t'intéresser à cette.
J'y crois pas une seconde.
Ah bah écoute, ils ont montré comment il avait été le premier à inviter à des conférences en 2016-2017.
Il aurait découvert OpenAI avant Satya Nadella.
Ouais, et c'est lui
il
qui
aurait
dit, un peu
va voir ce qu'ils font, c'est génial, etc.
Et il le montre, ils disent qu'il y a des conférences où il a invité à une table ronde les gens d'OpenAI qui n'étaient pas connus.
Peut-être et ensuite, qu'il les a mis en contact, en relation, etc. Mais
le fait qu'il manipule
comme marionnette, mais tu déconnes. Moi, je l'ai rencontré
Nadella. Non, attends, je dis.
Il est brillant, ce mec.
Ah ouais, il est brillant.
Bill Gates, c'est le jour et la nuit.
Je dis pas que c'est ça. Je te dis qu'il commence à y avoir une petite histoire qui se raconte en ce moment dans certains articles.
J'ai du mal à y croire, sincèrement.
Moi, je pense qu'il est un peu déconnecté des. Enfin, il est
surtout que Bill Gates, soyons clairs, c'est tout sauf un visionnaire. C'est un bonhomme qui a fait sa fortune sur une technologie qui était. Bancal, qui a réussi à avoir des bons contrats grâce à IBM et après avec d'autres constructeurs, mais c'est pas un visionnaire. Là, on parle de ce sujet, je ne sais pas qui a eu cette idée-là, mais quand on regarde le discours affligeant de ce personnage,
je lève la main doucement.
Qui explique
mais je ne suis pas le seul, hein, madame, monsieur. Il n'y a pas que moi, je crois qu'il y a Fred aussi.
Je lève la main avec toi, je suis solidaire.
Ce truc,
c'est vrai, toi aussi, tu m'avais noté ça, je crois.
Je suis solidaire.
Parce que pour tout, vous expliquez comment ça se passe le matin, on s'envoie des sujets et des petits mails pour se dire, on va parler de ça, ça, ça et ça. Et après, avec Léa, productrice, et Fred, on sélectionne nos sujets qui vont, qui est le marbre, en fait, de l'émission.
Je l'assume. J'ai découvert le discours hautement profond de Bill Gates qui, en gros, décrit ce que devait être l'assistant Google. Donc, il reprend le cahier des charges d'un truc qui existe depuis 10 ans et il t'explique en gros, mais il faut faire attention parce qu'il risque d'avoir des problèmes de confidentialité et de sécurité. Bravo. Tout ça pour dire l'IA arrive dans notre quotidien. Ouais, merci Monsieur Gates. Voilà, donc franchement, tu disais tout à l'heure, no subject, là on y est. Hein.
Oui, mais c'est parce qu'il a une parole
plus
de recul.
Explique-moi, donne-moi une invention de Bill Gates. Est-ce que tu as vu le code du du Pac-Man qu'il avait créé quand il était étudiant à l'université.
Écoute, il a eu l'intelligence, moi je trouve, je vais revenir sur les humains. Il a eu
Windows, si Windows existe, excuse-moi,
ouais. Fred, si Windows existe, c'est à cause du parc, du Palo Alto Research Center.
Non, mais il fallait bien un chef d'orchestre. C'était lui quand même le chef d'orchestre à l'époque. Alors, j'ai pas ta culture concernant Microsoft, ça je le revendique, mais malgré tout, il est pas arrivé là.
Il se retire
au
bon moment.
On parle de Steve Jobs, il y a plein de choses qu'il a copiées.
C'est pas la question. Moi, je cherche pas à comparer les deux. Steve Jobs, c'était un facho qui imposait ses idées et qui après est devenu une espèce de gourou.
Facho, c'est peut-être un bien grand mot, mais on va dire.
Il y a des gens comme ça sur d'autres chaînes.
Très très rigoureux.
Voilà, il était très.
Non, mais ton point sur Bill Gates, c'est quoi en fait? C'est de dire que
qui balance des platitudes et que tout le monde se prosterne devant et je comprends pas. Donc donne-moi
c'est pas parce que ce qu'il dit, enfin c'est moi j'avais repris dans une présentation que j'avais faite sur lui. Il a quand même dit il y a plusieurs mois en disant on n'aura plus, il faut arrêter de s'arrêter sur l'interface. Bientôt on parlera à notre téléphone, à la maison, on dira tiens.
Ça fait 20 ans qu'on dit ça.
Mais oui, mais
ça fait un moment qu'on.
Oui, mais là, on commence à y arriver. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui avec Copilot, tout ça, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte. Il y a une révolution qui est vraiment en train de se passer pour moi, même dans l'univers bureautique.
Qui
on va parler? Est-ce que on va continuer à rentrer sur notre messagerie par Word, Microsoft, machin, ou est-ce qu'on va dire, écoute, là ce matin, je veux tous mes comptes clients à qui je dois relancer pour leur parler d'IA. Il y aura un lien avec Salesforce, donc on aura tout. Et je pense que là, alors lui il le dit avec son grand recul, c'est la voix qui va piloter, il va pas rentrer dans le détail des technos, mais je pense que c'est.
Le knowledge navigateur d'Apple, tu te rappelles de ça?
Oui.
Donc, je ne sais pas si vous avez vu
1982,
l'annonce d'Apple d'un brevet que Apple a posé avec la possibilité avec de simples écouteurs, donc les AirPods, de lire les signaux cérébraux. Donc là, la nouvelle version, alors pas celle qui va sortir là, mais ils y travaillent en R&D. Et donc peut-être que l'interface, c'est drôle parce que ma fille de 11 ans m'envoie en pleine émission des messages et me dit « Papa, de toutes les manières, le portable de demain, ce sera celui avec lequel on dialoguera par la pensée. » Et elle a raison. D'une certaine manière, elle a raison parce que la prochaine version, ce sera avec des neurotech, probablement pas invasifs, mais juste avec des écouteurs qui seront capables de lire. Je vous rappelle que l'an dernier. En l'occurrence, on aura ce sujet, mais pas exactement le sujet.
Le prochain patron de Neuralink, Michel.
Pas de manière invasive, juste en lisant les ondes cérébrales de l'extérieur par les signaux électriques. L'année dernière, à l'université du Texas, donc c'était en juin 2023, des chercheurs ont réussi à lire une phrase pensée par un patient et donc de la retranscrire sous la forme de texte. Vous imaginez cette...
Non, mais c'était pas avec des capteurs invasifs, justement?
Alors là, en l'occurrence, c'était avec de l'invasif, mais comme je vous disais, Apple est en train de travailler avec des technologies qui seront non-invasives. Donc demain, on mettra nos écouteurs et potentiellement, on aura des services d'Apple ou des agents intelligents pour revenir à l'IA qui seront capables de lire directement sur... Alors, pas écrire dans le cerveau, mais lire dans le cerveau.
C'est Yacine qui est un spécialiste de ça.
Et échanger.
J'ai reçu la semaine dernière.
Sans avoir à parler avec.
Je reviens sur Bill Gates.
Ce que tu viens de dire est 100 fois plus intéressant que ce que dit Bill Gates dans son...
Merci Didier.
Excusez sur Bill Gates.
C'est quand même un sage de la tech, Bill Gates.
Est-ce que je peux en passer une?
Ça a été un dirigeant d'une grande entreprise pendant des années qui a vécu le début de l'ère informatique. Ok. Le réalisme,
t'as fait un croche-pied ou quoi quand
c'est ça, je crois qu'il aime vraiment pas en fait.
Je sais pas, il s'est passé quelque chose quoi, c'est pas possible.
Je trouve qu'on a beaucoup surévalué le personnage.
En fait, moi je suis pas pro ou contre Bill Gates, c'est pas le sujet en fait. Aujourd'hui, quand tu regardes, tu dis il enfonce des portes ouvertes. Peut-être. Oui. Non mais je peux te rejoindre là-dessus. Après, la réalité, c'est quand tu parles, et ce que je fais quand même très régulièrement, pour pas dire tous les jours, avec des chefs d'entreprise, avec des DRH, Sam Altman, ils connaissent pas. Yanseng Jiang, ils ne connaissent pas. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas comme ça. Et donc, quand tu as un Bill Gates qui te dit ça, c'est une vraie révolution, voilà vers où on va, ce sont des gens qui vont l'écouter. Et ça, ça a une vraie valeur pour moi parce que ça veut dire qu'à un moment, ils vont prendre les bonnes décisions pour aller vers de l'IA, vers ces assistants dont on parle. Et aujourd'hui, en fait, tu te rends compte que les entreprises n'ont pas compris en fait où est-ce qu'on va, comment on y va et comment ça va changer fondamentalement la façon de travailler. Donc quand tu as un Bill Gates qui, comme ça, pose un discours sensé et qui est écouté, ben, je trouve que c'est une bonne chose.
Une des facettes de la manière d'entrevoir l'arrivée de l'IA dans la vie quotidienne. Ce n'est qu'un des aspects. Donc, ton chef d'entreprise, je ne sais pas si ça le concerne au premier chef, tu vois, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'améliorer ses process, d'utiliser l'IA pour faire évoluer sa boîte. Ce n'est pas vraiment pour s'imaginer en train de discuter avec des agents intelligents qui vont lui donner les cours de la bourse.
Non, mais en fait, c'est là où je t'en rejoins pas, en fait. C'est qu'à un moment, si tu n'amènes pas le débat sur la table... De, ok, qu'est-ce que ça va apporter dans ton quotidien, que ce soit au travail, que ce soit dans ta vie privée, ben, les choses ne se passent pas. Encore une fois, hein, moi, je ne sais pas, enfin, je vous prends un témoin. Aujourd'hui, si tu prends les boîtes françaises, je considère qu'elles sont en retard. Mais il n'y a pas un jour, ou au moins une semaine, où tu n'as pas des boîtes qui viennent te demander, ok, comment on avance dans l'IA, c'est quoi les...
Ben, c'est marrant, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup en ce moment.
Moi aussi, tu vois.
Et il y a deux attitudes, les attentistes et les enthousiastes. En gros, ceux qui voient ça comme une opportunité, ceux qui voient ça comme un défi, ceux qui subissent et ceux qui veulent anticiper.
Et ceux qui pensent que ce n'est qu'une mode. Et là, quand tu as un Bill Gates qui dit que ce n'est pas une mode, tu vois, moi je me bats au quotidien pour lui expliquer que ce n'est pas une mode.
Je disais tout à l'heure, c'est un peu un sage de la tech, c'est-à-dire que le fait qu'ils le disent, même si on a déjà entendu tout ça par des experts IA depuis de nombreuses années, bah ça, comment dirais-je, ça enfonce le clou en quelque sorte.
C'est exactement ce que je dis.
C'est ça. Enfin,
c'est quelqu'un qui a accès à des cerveaux sans cesse. Il lit énormément. Il rencontre des gens qui doivent nourrir. Enfin, on le voit bien nous à notre humble niveau quand on rencontre des gens hyper intelligents. Là, je voyais ce matin, on recevait Emmanuel Kiva là, de
patron de. T'as cette chance.
Déjà, je te côtoie tous les soirs. Mais je voyais, tu rencontres le directeur général de l'armement, Edmond Kivet, qui était un personnage très brillant. Ben, voilà, tu te nourris de ces personnes-là,
oui,
tu écoutes
sûr.
Ce qu'ils
ça
disent. Tu dis, voilà, et tu imagines Bill Gates, lui, sans cesse, il est avec des gens, et des gens, des professeurs de médecine, et des gens, des neurochercheurs, et tout ça. Et je pense qu'en plus, il a cette chance-là d'être au contact de ces gens-là, et de, ben, quand il sort des choses, il a un peu. Sans doute moins intelligent que beaucoup d'entre eux, mais voilà, quand il sort cette parole-là, voilà, il a pris un peu ce recul et tout ça.
Et cette synthèse, quelque part, c'est vraiment ça. Ça t'apporte un plus. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça n'enlève rien.
Voilà. Termine, Saline. On n'arrivera pas à convaincre Didier, ça c'est certain.
J'allais dire que j'allais faire une micro-page de pub. S'il pouvait venir m'aider, si tu veux, à convaincre les chefs d'entreprise, moi ça m'aiderait. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, les gens ne se rendent pas compte que c'est une révolution. Je disais sur une page de pub, on fait des journées de formation qui s'appellent AI Révolution.
Ouais, c'est en juin par le. Bah tiens,
c'est en juin, en effet.
Prenons 30 secondes pour en parler.
Bah justement, en fait, si tu veux, l'idée c'est de montrer. J'ai plein de boîtes qui me disent c'est quoi la bonne formation IA. Et parce que les gens se disent, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et donc on a fini par en créer une, et une formation justement, où à un moment tu fais à la fois de l'IA, mais aussi des compétences comportementales. Et c'est un peu ce que dit Bill Gates, c'est-à-dire que c'est pas la machine qui va venir remplacer l'humain, c'est comment tu travailles avec cette machine. Donc en effet, le 7 juin, il y a deux sessions de formation, où on parle de compétences humaines, de compétences en IA, pour justement utiliser ça. Et pour que tous les collaborateurs des entreprises, et je le répète en permanence, utilisent l'IA générative, et qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise n'ont pas compris que c'était important de s'y mettre. Les DRH n'ont pas compris que c'était important de s'y mettre. Or, c'est le truc qui est le plus important ces dernières années. Et donc, que Bill Gates, encore une fois, le dise, je trouve que c'est une bonne chose.
C'est-à-dire qu'il faut leur vendre le bon cas d'usage. Si tu vas juste lui dire, grâce à Copilot, je vais être meilleur pour résumer les réunions Teams, il va te regarder avec des yeux comme ça, il dit oui, d'accord.
Non, bien sûr,
mais par contre, si on commence à lui dire, gagner 20% de temps parce que un développeur, parce que je vais écrire mes courriers plus vite, je vais répondre aux incidents techniques, j'ai mes techniciens, ils vont gagner 15% de temps par jour. Là, tu commences à l'intéresser, et là, c'est vrai qu'on voit comment ça s'enclenche, mais il faut arriver jusque-là à prouver ce ROI. Et d'ailleurs, ce qui change aussi, moi, je trouve, par rapport à tous ces projets IA, c'est qu'aujourd'hui, les gens, quand ils se lancent et qu'ils y croient, ils ne cherchent pas un ROI sur. Si le ROI, il est que de
trois mois, il dit tiens, allez, j'y vais, on va voir ROI de trois mois, puis on va apprendre en marchant. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui doit changer dans la façon dont voir ces projets d'IA. C'est qu'on n'est pas en train de se dire attends, j'investis là, qu'est-ce que ça va me donner fin 2024, on sera où j'en sais rien. Par contre, je peux te dire où on sera en septembre et on aura gagné ça. Et je pense que ça, c'est un élément.
Alors, il faut aller encore un petit peu plus loin, mais c'est même pas un projet d'IA, c'est de acculturer tout le monde. C'est vraiment ça le sujet. Que tout le monde l'utilise.
Bon, bah écoutez, on devait parler de Grok, mais aussi d'OpenAI avec des cadres supérieurs qui ont été, qui seraient partis. Bon, on n'a pas le temps, puisque voilà, c'est terminé. Mais c'était passionnant, cette petite digression concernant Bill Gates. Bon, après, il y a la fondation Bill Gates aussi. Là, on est d'accord.
M'en fous.
Franchement, la générosité et la puissance de cette fondation, c'est incroyable.
Ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir, mais ça vient de son cerveau quand même. Oui. Je sais que tu le détestes, mais c'est quand même un peu grâce à lui, Didier.
Beaucoup avec sa femme aussi.
Oui, son ex-femme.
Oui.
On rentre pas dans ce débat.
On rentre pas dans ce débat. Attention, on n'a pas le temps, c'est terminé.
Il y a du pour et du
mais bien sûr, voilà. C'est la vie. C'est
mais ce sera intéressant de se faire une soirée Bill Gates.
Oui. Ah, bah, tiens, oui. Ça, tu sais que j'y pensais il y a quelques minutes.
J'ai grand frère à ce moment-là, c'est dommage.
Non, tu viendras. Tu viendras. Allez, ce Techco est terminé. Merci à tous les quatre. Merci, Salim. Salim Nassur, donc, qui vient régulièrement dans Techco nous rendre visite. Merci à Didier aussi.
C'est un plaisir. Si je peux aider.
Journaliste, évidemment, tech. Merci à Michel Lévy Provençal. À très bientôt, Michel. Et merci à Fred. On se retrouve demain dès 20h. Radio, télé, en direct, bien évidemment. À demain. Bonne soirée.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.